France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des milliers de cabinets médicaux fermés depuis ce matin partout en France. Grève des médecins et des cliniques privées contre le budget de la Sécu pour 2026. On fait le point sur la mobilisation dans un instant et on en parle à 13h30 avec nos invités. Quelles sont les revendications et les enjeux pour notre système de santé? Appelez-nous dès maintenant pour vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. À suivre encore, les morts français de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. On connaît désormais les noms de 6 d'entre eux. Nous verrons qui ils sont. Emmanuel Macron qui, 2 jours après la capture du président vénézuélien, désapprouve ce matin la méthode des États-Unis. Ici, dans la voix de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée.
Et nous verrons que les Vénézuéliens qui ont fui leur pays ces dernières années pour la Colombie ne sont pas prêts à rentrer chez eux. En France, la neige qui a fait son apparition dans le nord-ouest du pays. Reportage à suivre dans le Calvados. Les prévisions complètes également dans une demi-heure, dans une vingtaine de minutes. Premier volet de notre série pour tout comprendre aux élections municipales. Ça s'appelle les clés des municipales et nous verrons aujourd'hui quel est le profil de nos élus. 13h50, c'est la France, Cécilia Arbona et la borne de la discorde. Ça se passe à Lers, dans le nord, à la frontière avec la Belgique. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Gilbert Montagnier, notre invité aujourd'hui, il demande Édith Piaf à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est déjà complexe d'obtenir un rendez-vous chez le médecin en temps normal. Alors, en période de grève, les médecins de ville et les cliniques ont débuté un mouvement ce matin contre le budget 2026 de la Sécu. Ils annonçaient ce mouvement comme étant un mouvement d'une ampleur inédite. On va voir ce qu'il en est. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre spécialiste santé. Ce mouvement est-il suivi?
Alors une première estimation. D'abord sur le site médecinsengrève.fr conçu spécialement pour cette mobilisation. Près de 16 000 médecins ont déjà assuré qu'ils étaient en grève cette semaine. Mobilisation très suivie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 50% de cabinets déjà fermés aujourd'hui selon les syndicats. C'est même 80% des généralistes dans le département des Bouches-du-Rhône qui ne prennent pas de soins non programmés. Dans le Nord, entre 60 et 80% de médecins déjà gréviste dès aujourd'hui. Guillaume de Wèvre a fermé son cabinet pour toute la semaine à Méricourt, dans le Pas-de-Calais. Le secrétaire général du syndicat Union Française pour la Médecine Libre nous explique le fonctionnement de son cabinet pendant cette période.
Tous les rendez-vous qui n'ont pas pu être déprogrammés seront honorés, puisque c'est une forme de respect que l'on doit également à nos patients. Par contre, on ne gérera que les urgences vitales, déontologiquement parlant, c'est également une règle. Mais on décalera et on repoussera toutes les constations et toutes les prises en charge qui peuvent l'être.
En gros, les médecins n'ont pas déprogrammé le suivi de patients avec de lourdes pathologies. Ce sont les personnes atteintes de diabète, de maladies respiratoires chroniques, d'insuffisance cardiaque ou rénale pour ne citer que ces maladies. Mais si vous appelez votre médecin pour un autre motif, vous ne trouverez pas de rendez-vous dans ces cabinets fermés.
Il faut dire, Victor, que ce mouvement intervient dans un contexte financier qui est très délicat pour la Sécu, avec un trou qui ne cesse de se creuser.
Et 15 milliards d'euros de déficit en 2024 et selon les premières estimations, ça pourrait même être 22 milliards en 2025. C'est la branche maladie qui est responsable de l'essentiel du déficit. C'est pour cette raison que le gouvernement entend resserrer la vis, notamment sur les arrêts maladie. Regardez de plus près ce qu'accordent les médecins pour freiner les dépenses de ce côté-là. Une pression insupportable, rétorque à l'unisson les syndicats.
Victor Delande pour ses explications. On y reviendra à partir de 13h30, hein, notamment avec le syndicat MG France qui sera avec nous. J'attends vos questions également. 01 45 24 7000. Là, le drame s'est déroulé à l'hôpital, celui d'hier dans le département du Var. Un incendie s'est déclenché la nuit dernière au service des urgences. Un patient est mort, une trentaine d'autres ont été évacués. Récit sur place, Christelle Marquez.
L'incendie s'est déclaré dans un box d'hospitalisation, un box fermé dans lequel se trouvait le septuagénaire depuis vendredi. Grâce à l'intervention rapide d'un agent de sécurité et d'un personnel soignant, le feu ne s'est pas propagé dans le bâtiment, précise Yann Lebras, le directeur de l'hôpital.
Au moment de l'événement, il y avait une vingtaine de patients présents dans les urgences. Ils ont été évacués. Leur prise en charge a été assurée de manière sécuritaire, mais dans d'autres espaces qui ne sont pas prévus pour cela normalement. Et donc notre mission est de pouvoir leur trouver un lieu d'hospitalisation prestations adaptées pour celles et ceux qui le nécessitent.
Les transferts ont donc été organisés vers les différents hôpitaux du département pendant que l'accueil des patients aux urgences de Hyères est suspendu. L'enquête est en cours, indique Jean-Pierre Gérand, le maire de Hyères.
Je souhaite qu'on sache très rapidement comment est né l'incendie, quelle est la distraction ou la difficulté qui est intervenue. Difficulté, je ne crois pas, dans la mesure où la commission de sécurité est passée très récemment et tout est dans l'ordre, donc ce n'est pas un problème technique.
En tout cas, aucune hypothèse n'est exclue pour le moment.
Reportage Christelle Marques, ici Provence. En Suisse, le rapatriement des corps des victimes étrangères de l'incendie de Grand Montana a débuté ce matin. Les corps de 5 des 6 Italiens décédés vont être rendus à leur famille aujourd'hui. Les autorités suisses ont achevé hier soir le long travail d'identification des victimes, parmi lesquelles celle des 9 morts français. Bonjour Béatrice Duguet.
Bonjour.
Ils étaient là pour travailler ou pour faire la fête dans ce bar.
Mais le plus jeune identifié d'abord, Noé. Il n'a que 14 ans. Son ancien club de foot, le Racing Besançon, confie sur son compte Facebook ce matin, photo souriante du garçon à l'appui, ses condoléances aux proches, une famille déjà endeuillée il y a 4 ans, semble-t-il, par la mort de la maman. Autre adolescente décédée, elle s'appelle Charlotte, elle a 15 ans. Elle possède aussi les nationalités israéliennes et britanniques. Elle a proposé ses services pour du babysitting à Crans-Montana. Sa maman indique sur Facebook qu'elle sera probablement enterrée à Paris jeudi. Il y a aussi le jeune DJ Dubar, 23 ans, né en Haïti, Matteo Lesgué, né au Chai pour son nom de scène. Il a grandi à Saint-Georges-sur-Loire, près d'Angers. Musicien depuis l'âge de 11 ans, il a fait une école de DJ à Poitiers avant de faire ses classes dans les boîtes de nuit de l'Ouest, puis d'être empoché donc dans le bar de Grand Montana il y a 3 ans maintenant. Siane Panin, elle aussi, travaillait en Suisse comme serveuse saisonnière. Jeune femme blonde de 24 ans, originaire de Sète, où ses parents sont commerçants. Elle a grandi dans le Gard et passé son adolescence sur le voilier familial amarré à Nuku'iwa, aux îles Marquises. Le décès de Giovanni Putelli lui provoque l'émotion à Fraisse en Moselle, dans les Vosges. Cet homme de 39 ans laisse 2 enfants, 3 et 5 ans. Il a quitté son département natal il y a 3 ans maintenant pour travailler précisément dans un casino. Ensuite, sa sœur et son frère ont donc appris via le Quai d'Orsay qu'il avait succombé dans l'incendie. Et puis Noémie Dabin est venue, elle fêtait le nouvel an à Crans-Montana avec des amis. Toulousaine, de 26 ans, très active, diplômée déjà d'un BTS tourisme et d'une licence en management des ressources humaines. Elle poursuivait ses études avec un master en management hôtellerie et en parallèle, elle était assistante de direction d'un hôtel. Elle avait lancé aussi son auto-entreprise pour une marque de produits cosmétiques.
Donc 6 victimes dont on connaît l'identité. Il y en a 3 autres.
Exactement, un garçon de 17 ans, un jeune homme de 20 ans et puis une femme âgée de 33 ans.
Merci Béatrice Duguet. Parmi les 119 blessés, cette fois 6 restent à identifier. J'ajoute qu'Emmanuel Macron se rendra en Suisse ce vendredi pour la cérémonie officielle d'hommage aux victimes. Dans le massif des Bauges, dans les Alpes françaises, les corps d'un couple de randonneurs portés disparus ont été retrouvés hier en fin d'après-midi, commune de Chevaline en Haute-Savoie. Ces Ardéchois étaient en vacances dans la région, ils étaient partis en randonnée. À pied, ils ont probablement glissé sur 150 à 200 mètres sur une pente en raison du gel. Le froid qui s'est accentué ces dernières heures sur notre pays, le dernier épisode de froid aussi marquant remonte à février 2018. Un froid doublé de neige, en pleine neige épaisse, plusieurs centimètres. 26 départements du Nord-Ouest, Île-de-France inclus, sont en vigilance orange aujourd'hui pour la neige et pour le verglas. Notre journaliste Martin Cotta, lui, est dans le Calvados, commune d'Aunay-sur-Odon, près de l'autoroute A84.
La neige tombe encore abondamment à l'ouest du Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Entre 7 et 10 cm sont tombés depuis cette nuit. Le réseau routier principal et le réseau secondaire continuent à être salés. L'autoroute A84 est praticable, mais les voitures roulent au pas. Beaucoup de neige dans la Suisse normande, par exemple, où les habitants n'ont pas été surpris. Tout le monde s'entraide. Dans le village d'Aunay-sur-Odon, on a même vu des agriculteurs sortir leurs tracteurs pour déneiger, pour déblayer les entrées d'un parking de supermarché. Les transports scolaires dans le Calvados et l'Orne sont toujours suspendus. Dans certains villages, des élèves n'ont pas effectué leur rentrée et s'amusent plutôt à faire des bonhommes de neige et à sortir leur luge. Des scènes de joie et d'amusement qui vont durer, car et le département du Calvados et le département de l'Orne resteront en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à demain matin.
Précision signée ici, Normandie, la couche de neige pourrait atteindre jusqu'à 15 cm. En Vendée, en Charente-Maritime, dans la soirée, nous dit Météo France, prévision complète avec Stéphanie Fromentin dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Emmanuel Macron contraint de se justifier ce matin en Conseil des ministres. Pourquoi s'est-il réjoui samedi de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et pourquoi l'a-t-il fait sans dénoncer la méthode américaine contraire au droit international, ce qu'a pourtant rappelé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, mais aussi de nombreux responsables politiques ce week-end, issus de la gauche, mais aussi du Rassemblement national. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous avez suivi en fin de matinée le compte-rendu du Conseil des ministres à l'Élysée, fait par la porte-parole du gouvernement. Le président de la République a visiblement corrigé sa première déclaration.
Oui, du bout des lèvres et avec d'infinies précautions sémantiques, Emmanuel Macron est revenu, c'est vrai, à la fin de ce Conseil des ministres de rentrée sur les événements au Venezuela, propos rapportés par la porte-parole du gouvernement Maud Bréjean.
Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvé.
Deux points à retenir, Jérôme. D'abord, la défense du droit international. Emmanuel Macron n'avait pas jugé bon de le rappeler dans sa première réaction publiée samedi soir sur les réseaux sociaux. Défendre le droit international, c'est reconnaître à demi-mot que, du point de vue juridique, la capture de Nicolas Maduro ce week-end est illégale. Deuxième inflexion notable du président quand il dit que la méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Les mots du chef de l'État sont beaucoup plus fermes, mais vous remarquerez qu'à aucun moment il ne mentionne Donald Trump ni même les États-Unis, tout sauf un hasard à l'heure où les négociations sur la paix en Ukraine entrent dans une phase critique. D'ailleurs, demain, Emmanuel Macron réunira à l'Élysée 35 pays de la coalition des volontaires, dont les États-Unis, pour préciser les garanties de sécurité à l'Ukraine. Pas vraiment le moment idéal pour risquer de froisser l'imprévisible Donald Trump.
Julien Nenni en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Nicolas Maduro, justement, le président vénézuélien détenu à New York avec son épouse. Tous deux seront présentés en fin d'après-midi à un juge. Ils sont accusés d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue. Au Venezuela, pour l'heure, c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez qui assure le pouvoir par intérim. Cette nuit, elle a demandé à Donald Trump, je cite, une relation équilibrée et respectueuse. On va revenir avec vous dans un instant. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Sur la préparation de cette opération américaine, puisqu'on a eu un peu plus d'informations ces dernières heures, mais d'abord allons à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Retrouvez notre envoyé spécial Olivier Poujade. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Olivier, vous avez rencontré des Vénézuéliens qui ont fui la dictature de Maduro ces dernières années, qui ont donc traversé la frontière, et ils vous expliquent que Maduro ou pas, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux.
Oui, et c'est ce qui explique la joie contenue des exilés vénézuéliens ici. Quelques petits groupes ont attendu hier la fin de journée pour se rassembler dans la pénombre, sous les arbres d'une des rares places publiques de Cúcuta.
Actuellement, le Venezuela n'est pas sûr.
Juan est un partisan de Maria Corina Machado, vous savez, la lauréate du prix Nobel, représentante de la droite vénézuélienne, poursuivie par la justice du pouvoir vénézuélien. Et d'après Juan, ce pouvoir est encore loin d'avoir capitulé.
Ils ont extrait une partie du régime. Le régime, ce n'est pas simplement Maduro ou son épouse Cilia Flores. Le régime, c'est Diosdado Cabello, Rodrigo López, Delcy Rodríguez et tout le reste de l'architecture chaviste.
Delcy Rodríguez, la vice-présidente, qui prêtera serment aujourd'hui devant l'Assemblée vénézuélienne, dans une atmosphère de tension et de répression, Natacha ne reviendra pas au Venezuela tant que les colectivos seront encore actifs dans les rues.
Ce sont des groupes qui datent de Chavez, des civils armés dont la mission est d'exécuter les directives du pouvoir. Ils harcèlent les gens, viennent les menacer chez eux. Ils peuvent aussi tuer pour assurer l'ordre social partout dans le pays.
Ils sont nombreux ici à penser que le nouveau pouvoir ne suivra pas les instructions de Washington et qu'une nouvelle opération militaire américaine sera sans doute nécessaire.
Olivier Poujade et Benjamin Thuot, nos envoyés spéciaux en Colombie, à la frontière, mais donc côté colombien. Étienne Monin, je reviens vers vous, la capture de Maduro a sidéré le monde. On peut dire aujourd'hui qu'elle a été préparée de longue date, à la fois sur le sol vénézuélien, mais aussi sur le sol américain.
Oui, parce que les Américains ont reconstitué la place forte de Maduro dans le Kentucky. Les commandos de la Delta Force se sont entraînés, donc en amont, dans cette réplique grandeur nature, notamment pour faire tomber les portes en acier de plus en plus rapidement. En parallèle, une équipe de la CIA a infiltré la capitale du Venezuela. Les espions ont travaillé pendant 5 mois avec deux appuis essentiels. une taupe dans le gouvernement vénézuélien et la surveillance de drones furtifs qui, au total, ont permis aux Américains de connaître les habitudes et les déplacements du président. La sécurité de Nicolas Maduro avait été renforcée ces derniers temps. Il était entouré par des gardes du corps et des membres du contre-espionnage cubain. Il était dans la base militaire de Fuerteventura, la plus grande du pays, quand il a été enlevé par les forces spéciales. Elles sont arrivées dans les hélicoptères du 160e régiment d'aviation qui est spécialement entraîné pour les vols de nuit à basse altitude. L'électricité avait été coupée, les défenses antiaériennes russes avaient été détruites. La mission d'extraction a duré 2h28, 80 personnes ont été tuées. Un hélicoptère a été touché, une demi-douzaine de soldats américains ont été blessés.
Étienne Monin, alors Donald Trump a ajouté la nuit dernière que les États-Unis étaient désormais au commandes, c'est son expression, aux commandes du Venezuela. Mais il a aussi désigné d'autres cibles. Cuba, je ne pense pas que nous ayons besoin d'agir. Il semble que tout s'écroule, affirme le président américain, qui menace aussi la Colombie et son président de gauche, mais encore le Groenland, immense territoire au nord-est du Canada, aujourd'hui possession du Danemark. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper, a dit Trump. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Fabien, c'est une nouvelle menace claire pour un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et pourtant, depuis ce matin, il n'y a quasiment aucune réaction en Europe.
Non, à part bien sûr la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui appelle les États-Unis à cesser leurs menaces d'annexion. La France, qui se dit solidaire, et la Commission européenne, qui vient d'appeler au respect de l'intégrité territoriale du Groenland, des réactions trop timorées au goût de nombreux élus du Parlement européen, dont la française Aurore Laluc pour le groupe des sociodémocrates.
Le Groenland, ça fait un an qu'il en parle. Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a fait depuis au niveau européen? On a pris quoi comme initiative? Sur le Venezuela, on a vu qu'il était crédible. Il fait. Il dit ce qu'il fait. Comme Poutine disait exactement ce qu'il allait faire aussi. Donc en fait, le pari de « mais non, il ne va pas faire ça », mais il est bien trop dangereux. Il est irresponsable. C'est ce pourquoi il a été élu. C'est pour être la brute épaisse dans la cour de récré. C'est sa légitimité, en fait. Et jamais il ne renoncera à ça, en réalité. Jamais. Donc ça, il faut aussi qu'à un moment, les Européens le comprennent.
Notamment en poursuivant leurs efforts en matière de défense européenne, plaident de nombreux eurodéputés pour ne plus dépendre des États-Unis et pouvoir ainsi s'engager plus librement dans des rapports de force avec l'administration américaine.
Une des seules réactions européennes provient en fait de l'extérieur de l'Union, puisque Keir Starmer, le Premier ministre britannique, dit à l'instant qu'il soutient le Danemark après les nouvelles menaces de Trump. Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Les relations de l'Union européenne avec l'Amérique du Sud, c'est donc le Venezuela. C'est aussi l'accord commercial avec les pays du Mercosur, dont le Brésil et l'Argentine. Cet accord doit être signé lundi prochain entre les deux parties, mais les syndicats agricoles français continuent de le dénoncer. Ils seront reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu cet après-midi et demain. On va en parler avec vous, Mariam El Kurdi, dans un instant. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Avant cela, écoutons cet agriculteur mobilisé ce matin sur l'autoroute A7 au sud de Lyon, à hauteur de Pierre-Bénite, autoroute qui est toujours coupée à l'heure actuelle. Il est membre du syndicat Coordination Rurale. Il s'appelle Florian Chipier. Il est producteur de fruits, salades et céréales dans le Rhône.
L'année dernière, on s'était déjà mobilisé, il y a deux ans aussi. Qu'on avait comme Premier ministre, monsieur Gabriel Attal, qui nous avait dit on va regagner notre souveraineté alimentaire en France. Et d'ici une dizaine de jours, on va ratifier le traité avec le Mercosur. Il y a certaines filières qui vont disparaître, notamment au niveau des fruits. Et je suis producteur de fruits. En fait, il n'y a plus rien qui va et la filière agricole française est en train de s'effondrer, quoi. Nous, l'idée, c'est pas forcément d'emmerder la population. Et autour de Lyon, ça pourra quand même circuler, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de sensibiliser, bien sûr, les consommateurs qui sont avec nous, mais c'est surtout de rencontrer nos politiques sur place, ici. Les mangues et les ananas et les avocats, en France, on en produit peu. C'est pas ce qui va sauver l'agriculture française, si vous voulez. Donc, on a eu un coup d'enfumage hier. Il faut qu'on mette les vrais sujets sur la table et qu'on discute sérieusement et qu'on fasse progresser. Mais maintenant, ça pourra pas durer encore 2 ou 3 ans, en fait.
Florian Chipier au micro de Christophe Vincent, qui nous parle justement des fruits. Mariam El Kurdi, c'est vrai que le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce week-end qu'il voulait suspendre l'importation de produits alimentaires en provenance d'Amérique du Sud, des produits dans lesquels il y aurait des résidus de substances qui sont interdites en Europe. Est-ce que cette mesure peut s'appliquer et comment ?
Alors, en tout cas, le gouvernement qui essaye d'apaiser la colère agricole l'espère. Avec cette annonce, la France souhaite aller plus loin que le seul cadre européen. Les aliments contenant des pesticides interdits au sein de l'Union européenne ne peuvent déjà pas être commercialisés dans nos rayons. En refusant les résidus de produits phytosanitaires comme le mancozeb ou le glufosinate, considérés comme potentiellement cancérigènes, la France avance des pions en faveur des fameuses clauses miroirs qu'elle exige, c'est-à-dire des mesures de réciprocité avec les pays sud-américains du Mercosur. En clair, les mêmes normes de production sur le plan sanitaire et environnemental. Une première étape pour protéger nos filières, nos consommateurs et lutter contre la concurrence déloyale, promet Sébastien Lecornu. Alors l'arrêté doit être publié demain au Journal officiel. Il concerne une dizaine de produits comme les pommes, les agrumes ou les pommes de terre. Mais pour que la mesure soit appliquée, et là ça se complique, il va falloir obtenir le feu vert de la Commission européenne dans les prochains jours. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va tenter d'obtenir cet accord lors de son déplacement à Bruxelles dans deux jours.
Merci Mariam El Kurdi. Notre rendez-vous avec les élections municipales. Les clés des municipales, c'est un nouveau moment qu'on va vous proposer toutes les semaines dans ce 13-14 jusqu'au premier tour, le 15 mars, pour en comprendre les enjeux et ça très concrètement. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Chef du service politique d'Inter, c'est vous qui inaugurez aujourd'hui cette série. En nous dressant le portrait de nos maires, ça dit pas mal de choses et on va voir que ce portrait robot a évolué.
Oui, aujourd'hui il s'appelle Michel, Philippe ou Alain, il a 60 ans, il est à la retraite, c'est un ancien cadre et il dirige une ville de moins de 500 habitants. Voilà le maire par excellence, celui qu'on croise le plus parce que 80% d'entre eux sont des hommes, parce que l'essentiel de nos communes sont petites et qu'à chaque élection, il y a de plus en plus de retraités parmi les maires. C'est la dynamique la plus frappante.
Et il y a de moins en moins d'agriculteurs ?
Oui, en activité ou à la retraite, ils étaient majoritaires dans les années 50. Maintenant, ils représentent un maire sur 10 pour 1,5% des actifs.
C'est beaucoup quand même.
Oui, surreprésentés dans les villages, bien sûr, et dans les départements ruraux. Les CSP plus occupe de plus en plus les hôtels de ville. Ça s'explique par les difficultés du mandat, de plus en plus judiciarisé, de plus en plus complexe. Le code de l'urbanisme a triplé de volume, par exemple, en peu de temps. Dans les grandes villes, on y retrouve toujours le même type de profil. À Lille, par exemple, Martine Aubry a choisi son ancien directeur de cabinet pour successeur.
Et la parité, y a-t-il autant d'hommes que de femmes ?
Alors, en ce moment, la France est championne d'Europe. Oui, pour les conseils municipaux, 42% de femmes. Ce n'est pas encore ça pour le poste de maire, 20%. Mais ça va grimper au printemps, puisque maintenant la parité est obligatoire, même dans les communes de moins de 1000 habitants. Donc on aura 50% de femmes dans les conseils et peut-être 30% de femmes mères, leur prénom en général, Catherine, Marie et Françoise.
Le portrait robot, c'est ce que vous nous dites Maxence, va évoluer. Mais ouais. Dans quel sens ?
Alors il faut se pencher pour ça sur une loi promulguée le 23 décembre dernier. Elle devrait permettre d'accueillir d'autres profils, à commencer par les personnes porteuses de handicap, avec le remboursement de frais de déplacement spécifiques, d'aménagement du poste de travail. Selon l'Observatoire du validisme en politique, seulement 0,02% des conseillers municipaux ont un handicap. L'objectif est aussi d'accueillir plus de salariés. Ils avaient le droit à 10 jours de congé pour faire campagne. Cette année, ce sera 20 jours. Pendant leur mandat, plus d'autorisations d'absence, plus de visioconférences, jusqu'à 24 jours de formation, des frais de garde d'enfants mieux pris en charge, une rémunération en hausse. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine chronique.
Est-ce que ça va faire baisser la moyenne d'âge de nos maires ?
C'est le principe, en tout cas. Cette loi a aussi créé un statut de l'élu étudiant. Cas pratique, Hugo Biollet, élu maire à 18 ans dans son village de l'Ardèche et étudiant à Grenoble. Sa scolarité n'a jamais été aménagée, ce devrait être le cas. Et ses allers-retours lui seront remboursés, il en fait 2 à 3 par semaine. 20 euros à chaque fois, ça pèse à la fin du mois.
Nos maires se prénomment Michel, Philippe, Alain, Catherine, Marie et Françoise.
Voilà.
Mais on a appris aussi beaucoup d'autres choses grâce à vous. Merci Maxence Lambrecq, rendez-vous la semaine prochaine. Mais on va reparler d'ici là des élections municipales, ce sera à 13h45 avec notre feuilleton. Nous serons dans le département du Doubs, dans une commune dans laquelle on est maire de père en fils depuis près de 2 siècles. Eux avaient été jugés au mois d'octobre pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux, non pas un élu, mais son épouse Brigitte Macron. Parmi ses 10 prévenus, certains prétendaient qu'elle était en réalité une femme transgenre et une pédocriminelle. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Ils ont tous été condamnés ce matin par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de quelques mois de prison avec sursis, voire jusqu'à 6 mois de prison ferme pour l'un d'eux.
Oui, 10 condamnés, et pour ceux qui étaient présents ce matin, une réaction quasi unanime. Dans des pays comme les États-Unis, on a le premier amendement qui garantit la liberté de parole. Toutes ces choses-là, elles viennent d'être tuées par cette décision aujourd'hui. Donc vous imaginez l'intimidation qui pèse maintenant sur toutes les personnes en France, c'est l'épée de Damoclès.
Donc on peut dire qu'en France, on n'est plus en République. On a un régime de royauté où le crime de lèse-majesté est revenu au goût du jour. On nous dit, toi, t'as pas intérêt à l'ouvrir, quoi, parce que sinon t'es fichu.
Mais quand les harceleurs de Brigitte Macron invoquent, même condamnés, la liberté d'expression, le tribunal, lui, retient la dégradation des conditions de vie de la première dame, le fort retentissement de ce cyberharcèlement sur son entourage, ses petits-enfants, au point de contraindre Brigitte Macron à adapter ses tenues, ses postures, à relever le tribunal ou à être constamment sur le qui-vive de la manière dont chaque photo pourrait être interprétée. Un harcèlement massif, a encore indiqué le tribunal via des messages, des photos, une volonté de nuire dans des termes particulièrement malveillants et insultants pour lesquels les prévenus ont donc été condamnés à de la prison avec sursis, 6 mois ferme pour l'un d'entre eux, mais aussi à des stages de sensibilisation au cyberharcèlement. Un dernier élément sur lequel l'avocate Brigitte Macron s'est dit particulièrement satisfait, tout comme l'interdiction temporaire pour certains prévenus d'utiliser les réseaux sociaux.
Charlotte Piret, l'année 2025 avait été marquée sur le web par des vols massifs de données, pas un jour sans nouvelle affaire. Eh bien, 2026 ne va pas déroger à la règle. La dernière en date concerne un hôpital privé de Belfort et un cabinet d'ophtalmologie de Sallanches. 150 000 dossiers de patients qui provenaient au départ de Doctolib, 150 000 dossiers ont fuité et ont été publiés. Bonjour Xavier Demany.
Bonjour à tous.
Qu'y a-t-il dans ces fichiers?
Alors, un peu comme d'habitude, des noms, des prénoms, des emails, des numéros de téléphone, 150 000 ligne, une par patient, mais, et c'est la bonne nouvelle, pas de numéro de sécu ou de coordonnées bancaires. Le problème vient très probablement d'une faille chez ces deux établissements de santé et non pas chez Doctolib, comme l'ont suggéré initialement les cybercriminels. Si elles ont été un temps hébergées par la plateforme, ces données ne le sont plus, dit-elle, depuis plusieurs années. Les serveurs de l'entreprise n'ont pas été compromis, affirme Doctolib.
Est-ce que ces fichiers ont de la valeur?
Alors, en l'occurrence, elles ne valent pas grand-chose, ces informations, au regard de la masse des vols de données de ces derniers mois que vous évoquiez, Jérôme. Là, les fichiers ont même été mis en ligne gratuitement. En fait, ce qui fait monter les enchères, eh bien, c'est le volume et la rareté. Si le fichier contient, par exemple, des informations sensibles, cela pointe tout de même, ça met en lumière tout de même les failles de nos systèmes informatiques, estime l'expert Baptiste Robert.
Malheureusement, que ce soit les établissements de santé, même les entreprises, le niveau de cybersécurité est effectivement trop faible. Dans la pratique, dans l'utilisation de la technologie qui est faite aujourd'hui par le grand public, il y a une foultitude de moyens de compromettre un système d'information.
Au-delà des sempiternelles recommandations, mot de passe sécurisé, double authentification, Baptiste Robert préconise la plus grande vigilance, de prendre le temps d'examiner en détail chaque sollicitation qui pourrait être suspecte, afin d'éviter un clic trop rapide qu'on aurait ensuite à regretter.
Merci Xavier Demany. Et puis deux informations qui concernent le musée du Louvre, à qui on souhaite une meilleure année 2026 que 2025. Ce ne sera pas difficile. La grève est reconduite aujourd'hui au musée du Louvre de la part de deux syndicats. Le musée reste ouvert aujourd'hui, mais en mode très dégradé, précisent les syndicats qui dénoncent les conditions de travail. Mais le bilan en termes de visiteurs en 2025 a été plutôt bon. Le Louvre a accueilli 9 millions de visiteurs l'an dernier, une légère hausse par rapport à 2024. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo neigeuse et froide de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, nous parlons de la grève des médecins. À partir d'aujourd'hui et pour 10 jours, arrêt maladie, dépassement d'honoraires, tarifs des actes médicaux, voilà les principaux points de blocage. J'attends vos questions, vos témoignages aussi. 01 45 24 7000, par exemple, si vous avez trouvé porte close ce matin. 13h45, notre feuilleton, nous serons donc dans le Doubs, dans une commune où l'on est mère de père en fils. Ça fait presque 200 ans que ça dure. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Plaisir de retrouver Cécilia Arbona et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, la frontière entre la France France et la Belgique dans le Nord.
Une borne datant de 1819, jugée dangereuse dans une rue, a été repeinte en jaune pour être vue. Un saccage pour les défenseurs du patrimoine.
Et avec vous, Frédéric, un chanteur.
Chanteur dont vous trouverez facilement l'identité. Si je vous dis Jérôme, on va s'aimer ou bien les Sunlight des Tropiques.
Oui, Gilbert Montagné avec nous, bien sûr.
Et avec lui, nous écouterons une chanson d'Edith Piaf dont la voix lui rappelle de très nombreux souvenirs d'enfance.
Le soleil dans la voix de Gilbert Montagné va nous faire du bien. À tout à l'heure.
Je vois du soleil, Madame là-dessous.
Oui, bah jusqu'à là, une chance sur deux. Hein.
Je vois des économies, beaucoup d'économies.
Ah, mais oui, bien sûr, je viens de faire installer un carport solaire à Kenna. Et avec lui, je suis connecté pour faire des économies d'énergie.
Je vois.
Mais c'est tout vu, madame, c'est Akena.
Véranda, pergola et carport sur
akena.com.
France Télévisions, demain soir. 13 candidats, un seul vainqueur, une seule règle.
Ne jamais sortir de l'anneau.
Pour gagner, ils vont braver la montagne et défier l'anneau. L'anneau, qui en sortira vainqueur? Votre nouveau jeu d'aventure, présenté par Laurent Luya, demain soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Alors, cette perturbation qui arrive par le nord-ouest,
elle s'accompagne de chutes modérées de neige. De chutes de neige, 1 à 3 cm en général, 4 à 8 sur les collines normandes et bretonnes, ainsi que sur les pays de la Loire. C'est en Baie-de-Somme que les chutes de neige ont été les plus marquées ce matin, avec 7 cm entre Abbeville et Amiens. D'abord limitées à la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, ces précipitations neigeuses gagnent cet après-midi les pays de la Loire, le bassin parisien et les Ardennes. La région parisienne sera touchée sur le créneau 13h, donc en ce moment.
C'est maintenant.
Et
hein.
Voilà, et 19h. Météo France a placé 26 départements en vigilance orange neige verglas sur un large quart nord-ouest. En soirée, la perturbation glisse vers le sud et les chutes de neige modérées à fortes concerneront les départements qui s'étirent des Pays de la Loire au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Après une légère pause demain, l'offensive neigeuse sera plus marquée mercredi.
Et toujours du froid, des températures hivernales.
Avec ces températures négatives, la neige va tenir au sol, donc il faudra redoubler de vigilance sur les routes qui seront glissantes, notamment sur la façade est, plus localement du quart nord-est au centre-est avec moins 3 à moins 2 degrés. Ailleurs, ne comptez pas sur plus de 0 à 5 degrés au mieux à l'ouest. 4 à 7 sur le pourtour méditerranéen et puis les températures seront plus clémentes sur la Côte d'Azur, l'île de Beauté avec 10 à 14 mais sous un ciel gris et humide.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Un mouvement jamais vu, voilà ce que promettent médecins de ville et cliniques privées pour les 10 prochains jours. À la fois une grève depuis ce matin, une manifestation samedi à Paris, mais aussi un exil symbolique en Belgique pour plusieurs jours. De chirurgiens, de gynécologues ou encore de médecins anesthésistes. Ce qu'ils contestent, le budget de la sécurité sociale tel qu'il a été voté en fin d'année dernière, insuffisant selon les syndicats, avec un contrôle renforcé des prescriptions d'arrêt de travail et la possibilité pour les autorités de baisser les tarifs de certains actes. Et puis il y a aussi les réflexions en cours sur l'encadrement de l'installation des médecins dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux. Deux invités pour comprendre. Johan Sénac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Pantin, tout près de Paris, donc en grève aujourd'hui, cabinet fermé.
Ce matin, j'ai assuré quelques consultations pour des patients qui en avaient besoin. Et effectivement, je n'ai pas pris d'urgence qui pouvait être différée ou de petites urgences, entre guillemets.
Donc au-delà de ces consultations, plus de consultations à partir de maintenant. Vous êtes vice-président du syndicat de médecins généralistes MG France, qui est le premier syndicat de médecins généralistes de France. Avec nous, Nathalie Coutinet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, économiste de la santé, enseignante, chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord, votre dernier ouvrage « Économie du médicament ». C'est aux éditions La Découverte. Bernard est au 01 45 24 7000. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, Bernard. Voilà, ce que je voudrais dire...
Vous nous appelez de Savoie, c'est ça, hein ?
Pardon ?
Vous nous appelez de Savoie, c'est ça. Nous vous écoutons, Bernard, pour votre question.
Voilà. Alors, j'observe avec une grande attention, comme bon nombre de Français, la situation de la sécurité sociale, d'accord, vis-à-vis des finances,
ouais.
Voilà, vis-à-vis de... Et en particulier, j'observe aussi le fonctionnement de la médecine libérale. Voilà. Je ne suis pas un gauchiste, au contraire, mais je pense tout de même que le mouvement aujourd'hui de la médecine libérale, que je respecte, vise davantage une médecine très dépensière, examens médicaux, médicaments, déplacements, etc., vise plutôt l'intérêt de la médecine libérale, d'accord, plutôt que l'intérêt financier de la sécurité sociale et de l'État.
Merci Bernard pour votre question. Je soumets votre interrogation à Johan Sénac.
Oui, merci pour cette question. Je pense que pour qu'on soit bien compris, il faut qu'on expose peut-être les mots d'ordre de cette grève. Le motif principal de cette grève, il s'exprime sur un tournant autoritaire qui est pris dans la manière dont sont conduites les politiques de santé. Ça, c'est le motif, je dirais, qui unit toute la profession.
Vous voulez continuer à décider de ce que vous prescrivez, pour faire simple.
On veut rester indépendant dans la décision. Être indépendant, ça ne veut pas dire faire ce que l'on veut, d'accord ? Ça veut dire simplement apporter la réponse qui correspond aux besoins exprimés par le patient. Effectivement, nous savons qu'il y a une tension sur la dépense et on pourrait discuter du trou de la sécu parce qu'il y aurait beaucoup à dire. En revanche, ce qui est certain, c'est que la menace qui pèse sur la question des arrêts de travail, par exemple, et c'est un des motifs très forts de notre colère à AMG France, les premiers à en payer le prix, ce ne seront pas les médecins. Et c'est là, c'est presque la réponse que j'ai envie de faire. Le motif de notre indignation, il s'exprime finalement, j'allais dire, en premier lieu pour les patients. Les arrêts de travail, si demain étaient adoptées les mesures qui sont en cours de discussion au Parlement, les premiers à en payer le prix seraient les patients.
Limitation de la durée des arrêts de travail, ne pourront accéder un mois pour une première prescription et 2 mois pour chaque renouvellement. Il faut quand même dire, Johan Sénac, que les arrêts maladie ont augmenté de 30% ces 10 dernières années.
Donc il y aurait le coût des arrêts de travail. Les arrêts n'ont pas augmenté de 30%, mais leur coût.
Le coût, exactement.
Voilà, pour tout un tas de raisons qui sont pour la plupart des causes structurelles, de hausse des salaires, de réduction du chômage, de travail plus longtemps tout au long de la vie. Donc ça, c'est principalement les causes qui expliquent. Et ensuite, vous avez actuellement, là dans la conjoncture, des gens qui vont moins bien et énormément de souffrances, notamment psychiques, mais aussi physiques, sur des fins de carrière qui sont très difficiles. Donc ça soulève énormément de questions. Donc oui, les arrêts de travail ont augmenté. Néanmoins, si la politique voulu et de réduire les arrêts de travail, y compris lorsqu'ils sont justifiés, eh bien, il faut le dire comme ça, tout simplement.
Nathalie Coutinet, la sécurité sociale aujourd'hui est dans une situation financière très grave, l'une des plus lourdes qu'elle ait connue.
Non, alors depuis que quasiment que la sécu existe, on parle du trou de la sécu, donc on peut pas non plus dramatiser. Ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, c'est que bon, d'abord on a eu le Covid. Le Covid, il a beaucoup reporté sur la sécurité sociale, hein, parce que le chômage, évidemment le coût des soins, etc. Mais on a aussi un sous-financement de la sécurité sociale qui est assez récurrent. Alors les dépenses augmentent. Évidemment, mais les dépenses de santé, elles augmentent parce qu'on est mieux soigné, parce qu'on est plus nombreux, parce que le coût des soins augmente, les médicaments sont plus chers, les actes sont plus chers. Et on ne pourra pas, c'est illusoire de penser que les dépenses de santé globalement vont baisser compte tenu d'un certain nombre d'avancées technologiques et l'augmentation des maladies chroniques. Enfin, il y a un ensemble de facteurs qui font que les dépenses augmentent. Par contre, les recettes, elles, n'ont pas augmenté au même rythme, notamment parce que les entreprises ont obtenu des exonérations de charges sociales sur un certain nombre de leurs salariés. Et c'est finalement, et c'est même la Cour des comptes, hein, dans un rapport de l'année dernière, qui dit que c'est pas soutenable de continuer à ne pas augmenter les recettes, puisque
les entreprises cotisent plus.
Alors, soit les entreprises cotisent plus, soit on augmente les cotisations sociales pour les salariés, de manière même minime, hein, mais si tout le monde augmente les cotisations sociales un petit peu, on résout. C'est vraiment une question de choix politique. Est-ce qu'on veut conserver un système de santé tel qu'on l'avait et que, à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens? Et s'en donner les moyens, c'est effectivement cotiser plus. Mais attention, ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup un report du financement de la sécurité sociale vers les assurances complémentaires, ce qu'on appelle vulgairement les mutuelles. Mais là, on paye des primes, hein, les ménages payent des primes. Donc, est-ce qu'il faut mieux payer un peu plus pour la sécurité sociale qui est plus égalitaire, ou payer plus aux assureurs santé en adhésion à un certain nombre de contrats pour être mieux couverts? C'est une question qui devrait être posée de manière globale.
Question de Guy du département de l'Yonne. Je vous la soumets, Johan Sénac. Je suis ancien médecin. Je ne trouve pas ça normal que ce soit le médecin traitant qui juge de la durée de l'arrêt. À mon époque, on avait une mission de juger à un moment donné, mais le suivi de l'arrêt était effectué par les médecins conseils.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de visites, je dirais, auprès de la Sécurité sociale pour des questions RH, tout simplement. C'est qu'ils n'ont plus suffisamment de, j'allais dire, de professionnels disponibles dans les caisses pour pouvoir effectuer ces rendez-vous qui, généralement, se faisaient au bout de 6 mois d'arrêt. Ce qui permettait, sur des arrêts de longue durée, qui sont, donc là encore, des arrêts qui sont justifiés. On n'arrête pas 6 mois quelqu'un pour lui faire plaisir. Il faut en être conscient. Et c'est vrai que ces rendez-vous n'ont plus assez lieu et ça occasionne des problématiques. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne réglera pas les problèmes liés aux arrêts de travail en administrant des amendes aux médecins qui les prescrivent. Donc je répète encore une fois, pour moi, cette préoccupation, ce qui se joue dans un projet de loi gouvernemental, c'est la mise sous objectif de nos prescriptions d'arrêt de travail, mais pas uniquement. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça expose... Alors certes, le médecin a des amendes très importantes qui peuvent aller jusqu'à 8000 euros, mais en premier lieu, le patient.
Une autre mesure qui est dans le collimateur des médecins et de leur syndicat, Johan Sénac, c'est ce qu'on a appelé le dispositif de lutte contre les rentes constituées dans le système de santé. C'est ce qui est inscrit dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. C'est-à-dire ces professions qui, selon le gouvernement, jouissent d'une rentabilité jugée excessive. Radiologie, radiothérapie, dialyse, les laboratoires d'analyse médicale, ce sont des secteurs qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent.
Alors, ce sont des secteurs où il y a en tout cas des revenus qui sont plus importants qu'en médecine générale, mais je vais rester prudent en restant sur ce que je connais, c'est-à-dire mon métier. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une entorse au respect des principes même de la sécurité sociale, dont la gestion doit être paritaire, avec une négociation des tarifs qui doivent être concertés entre le...
Voilà, parce que désormais, l'assurance maladie pourrait, dans certains cas, quand il n'y a pas d'accord avec les médecins, baisser d'autorité des tarifs qu'elle trouverait trop élevés.
Absolument, c'est une baisse unilatérale, et donc effectivement, c'est un contournement du dialogue conventionnel. C'est une manière de contourner le dialogue social, et effectivement, on s'oppose à cette mesure, j'allais dire, sur son principe même.
Nathalie Coutinet, quand dit l'économiste de la santé que vous êtes, il y a eu des marges qui ont augmenté ces dernières années dans ces spécialités médicales.
Ça, c'est effectivement quelque chose qui concerne plus les spécialistes que les médecins généralistes, puisque les médecins spécialistes font plus d'actes qu'ils tarifient par rapport aux médecins généralistes. Et effectivement, on ne peut pas nier que les salaires des radiologues, enfin les revenus des radiologues ou de certaines professions, et la biologie aussi, ne soient pas excessifs par rapport aux rémunération aussi d'autres spécialités médicales qui sont un peu les parents pauvres. Je pense à la gériatrie, à la psychiatrie, par exemple, ou à la pédiatrie, qui sont des spécialités médicales qui rapportent beaucoup moins que d'autres. Donc il faut sans doute rééquilibrer et il n'y a pas de raison que les radiologues en particulier, parce que ce sont eux qui gagnent le plus d'argent indéniablement et toutes les données le montrent, ne fassent pas un effort, ce qui fera aussi un effort pour la sécurité sociale. Et du coup, finalement, tout le monde y gagnera, eux un peu moins, mais le système de santé y gagnera.
Johan Sénac, si le gouvernement demande un effort à ces professionnels de santé, mais qui refuse dans le cadre du dialogue assurance maladie médecin, qu'est-ce qui se passe? On en reste là? On ne peut pas les contraindre? Vous ne souhaitez pas qu'on en arrive jusque-là?
La négociation doit se poursuivre. Les acteurs, vous savez, sont responsables. Et il faudra convenir d'un certain nombre... Il y a forcément une réévaluation des actes techniques et de leur valorisation. Et comme il y a des processus qui peuvent, j'allais dire, gagner en efficacité avec le temps, c'est normal que les tarifs soient réévalués, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la nomenclature des actes qui n'a pas été réévaluée depuis 2 décennies. Et que quand on parle dépassement d'honoraires, ça pose cette question-là aussi en creux. C'est est-ce qu'on est en capacité d'offrir des tarifs opposables qui permettent à des professions de pouvoir exercer à tarif opposable ou pas? Et là encore, c'est un choix politique.
Sur les dépassements d'honoraires, justement, il y a de plus en plus de médecins libéraux qui les pratiquent. La facture s'alourdit, 4,5 milliards d'euros en 2024, ce qui a fait dire à la ministre de la Santé qu'il y a une augmentation exponentielle de ces dépassements d'honoraires ces dernières années, même si les abus ne concernent qu'une minorité de médecins. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ce que je peux vous dire, c'est que l'immense majorité de ma profession exerce à tarif opposable et qu'une grande partie d'entre elles propose le tiers payant. C'est mon cas, par exemple. Donc le patient n'avance pas les frais lorsqu'il nous consulte sur sa part assurance maladie, au moins.
Mais il y a un sujet sur certains médecins. La ministre ajoute certains des Français doivent renoncer aux soins pour des raisons financières, donc ça n'est pas acceptable qu'il y ait autant de dépassements d'honoraires.
L'accessibilité pour des raisons financières, évidemment, c'est une préoccupation d'MG France. Et pour cela, nous militons, nous plaidons pour un secteur 1 qui soit valorisé correctement. Pour éviter la fuite, soit vers le secteur 2, soit pire encore, le déconventionnement.
Vous nous rappelez la différence entre secteur 1 et secteur 2, Nathalie Coutinet ?
Tout à fait. Le secteur 1, ce sont les médecins qui pratiquent des prix de consultation et tarifs de consultation qui sont ceux de la Sécurité sociale. Et secteur 2, c'est ceux qui sont autorisés à faire des dépassements. Et le secteur 3, c'est même ceux qui ne sont pas conventionnés par la Sécurité sociale, mais pas remboursés.
Alors là, il y en a de plus en plus dans le secteur 2 et 3.
Dans le secteur 3, un petit peu, mais c'est surtout dans le secteur 2. Et ça concerne principalement les spécialistes, les médecins spécialistes, puisqu'aujourd'hui, plus de la moitié des médecins spécialistes qui s'installent en secteur 2. Et donc, évidemment, pour les patients qui ne sont pas forcément remboursés à hauteur de ces dépassements d'honoraires...
Donc, il va y en avoir de plus en plus, parce que les jeunes s'installent en secteur 2 et peut-être ceux qui partent à la
retraite. Et puis, il y en a certains qui abusent aussi beaucoup. À Paris, on peut avoir des consultations de spécialistes à 100 ou 150 euros. Donc, c'est évidemment pas supportable pour les patients.
Sur le mode d'action, je vous soumets la question de Claude, qui nous envoie ce message de grâce, Johan Sénac. J'ai été infirmière. Quand on faisait grève, on n'aurait jamais quitté notre poste. Je trouve léger pour un médecin de faire grève physiquement.
J'ai commencé, je crois, notre entretien en vous disant que ce matin, j'avais assumé un certain nombre de consultations, ce que je ferai en gros tout au long de cette grève. Je pense que l'immense majorité des médecins... En fait, il y aura des modalités très différentes.
Mais oui, parce que 10 jours de grève, on se dit qu'il va y avoir des conséquences pour les malades.
Le but est de témoigner d'une colère, mais soyez certains qu'on garde notre professionnalisme et qu'on a évidemment à l'esprit... la sécurité de nos patients et que c'est une mission qu'on exerce au quotidien.
Mais comment on fait pour vous joindre ? Enfin, concrètement, comment vous faites le tri entre quelqu'un qui aurait vraiment besoin de vous voir, qui va appeler le 15 ?
Là encore, ça dépend. Moi, je peux vous parler de mon organisation. Ouais, moi, ma secrétaire n'est pas en grève, par exemple. Ma boîte mail est toujours disponible. Mon téléphone est allumé. Et effectivement, au coup par coup, je vais gérer ce qui peut être différé ou pas.
Donc votre secrétaire, si monsieur un tel ou madame un tel appelle en disant là ça va pas du tout et j'arrive pas à trouver de solution, peut-être que vous ferez une parenthèse dans la grève, c'est ce que je comprends.
Je vais prioriser la santé de mes patients tout en témoignant de ma colère.
Merci à tous les deux, Johan Sénac, vice-président du syndicat MG France. Merci également à Nathalie Coutinet, économiste de la santé, d'avoir répondu aux questions des auditeurs du 13-14 aujourd'hui, 13h46 sur Inter.
Merci.
Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton nous conduit à Blussan toute cette semaine. Dans le Doubs, moins de 200 habitants dans cette commune. Son maire s'appelle Marc-André Daudivert, il a 57 ans. Particularité, en 2020, il a succédé à son père. Et c'est comme ça dans cette commune depuis 1818, plus de deux siècles avec la même famille dans le fauteuil de maire. Jérôme Val va nous raconter cette histoire toute cette semaine. On retrouve donc le maire sur place pour feuilleter l'album de famille.
Le premier maire de la famille a été élu en 1818. La plupart des gens de ma famille ont été maires. Il y a eu quelques interruptions suite à des maladies ou à des vacances. Mais depuis 1818, donc, la famille s'investit donc, dans la commune. Marc-André Daudivert, je suis maire de Blussan. Blussan, c'est un petit village qui est dans le Doubs. On a à peu près 195 habitants. Donc, je suis maire depuis 2020 et j'ai été conseiller municipal pendant 25 ans. Alors, sous les yeux, donc, on a l'arbre généalogique de la famille Daudivert.
Donc, le premier maire de votre famille, 1818, Claude-Antoine, c'est ça ?
Claude-Antoine en 1818. Claude-Antoine a été réélu en 1832. Ensuite, Daudivert-Louis en 1888, Daudivert-Numa en 1910, Daudivert-André en 1942 et mon papa Bernard en 1971.
Et donc votre papa en 1971 jusqu'en
2020, donc il a fait 49 ans de mandat.
Un beau mandat.
Un beau mandat, exactement. Les archives de la commune commencent à la Révolution française et le premier acte relatif à l'administration communale inscrit au registre de la municipalité de Blussan est le suivant. Procès verbal de l'élection des officiers de la municipalité de Blussan.
Ça, c'est donc fin du 18e, quoi, vraiment.
Oui, exactement. Donc, le premier document écrit concernant la commune date de 1136. On a retrouvé des traces du nom du village à partir du 8e siècle. Déjà, là, c'est le berceau de la famille. Donc, beaucoup de mes ancêtres sont nés... Elles sont enterrées ici. Et puis, il y a toujours eu cette fibre communale. Elle a toujours été investie dans la vie du village en tant que maire, mais aussi dans les associations, le comité des fêtes, le club de foot. Il y a toujours un investissement de la famille dans les différentes associations.
Et vous, j'imagine, quand vous étiez enfant, ça a infusé peut-être déjà à cette époque-là ?
Peut-être pas quand même, pas si jeune, mais c'est vrai que bon, j'ai toujours été investi aussi, bon, avec mon papa qui était maire donc, pendant 49 ans. Donc j'ai été avec lui pendant 25 ans au conseil municipal et ça me paraissait logique de pouvoir m'investir aussi à mon tour dans la commune. Ici, vous avez un portrait d'un de mes ancêtres, hein, Claude Antoine, hein, qui a été maire de Blussan pendant 34 ans.
Alors on le voit avec effectivement l'écharpe tricolore, l'habit d'époque, évidemment, de ce début du 19e siècle.
Ouais, c'est une gravure qui avait été réalisée par des jeunes. Hein, donc, un petit peu pour montrer un petit peu comment les gens étaient vêtus à l'époque. Et puis, c'est aussi un symbole de l'investissement, l'écharpe tricolore, hein, donc de cet ancêtre.
Ça, c'est son écharpe à lui d'origine ?
Normalement, oui. c'est son écharpe d'origine, oui, tout à fait. C'est vrai que ça a un côté émouvant et de se dire que cette écharpe tricolore, aujourd'hui, quand on la porte, c'est vraiment une responsabilité et un honneur.
Vous avez des enfants vous-même ?
Oui, j'ai deux enfants, un garçon et une fille.
Et ?
On l'a déjà évoqué, hein, mais c'est vrai que vraiment c'est les études qui vont décider et puis où ils vont pouvoir trouver du travail. Parce que c'est ça aujourd'hui, hein, c'est qu'on n'est pas sûr de trouver du travail à proximité de son lieu d'habitation.
Jérôme Val pour ce feuilleton dans le Doubs. J'ajoute que nous consacrerons ce 13-14, ce jeudi, aux prochaines élections municipales. Nous serons en direct de la commune de Luis, un peu moins de 1000 habitants, dans le département de l'Ain. L'émission sera en direct de la salle des fêtes de Luis. Elle sera aussi en public et l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Vous serez donc les bienvenus à Luis ce jeudi.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi 13h50, Cécilia Arbona est là pour nous parler d'un lieu qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, Cécilia, nous sommes à Lers, dans le nord, à la frontière entre France et Belgique. Cette commune vient de faire parler d'elle.
Pendant les fêtes, exactement, la municipalité de 10 000 habitants s'est retrouvée la cible de messages moqueurs et insultants au standard de la mairie et sur les réseaux sociaux. En cause, l'initiative personnelle d'un agent de la voirie appelé après un accident de la circulation à une intersection. Un cycliste serré de trop près par une voiture dans un virage a alerté sur un bloc de pierre mordant sur la chaussée. L'employé municipal a décidé de signaler l'obstacle avec de la peinture jaune. Il a badigeonné le sommet de la pierre ainsi que les arêtes, rendant effectivement sa création très visible.
Le problème, c'est que cette stèle est un vestige de 1819.
C'est en fait une ancienne borne frontière. À l'époque, l'air s'est coupé en deux et cette pierre scellée dans le sol marque la frontière physique entre la France et la future Belgique, alors rattachée aux Pays-Bas. Une face de la borne porte le F de France, l'autre le N de Nederland. C'est bien sûr une maladresse fâcheuse, reconnaît aujourd'hui le maire Jean-Philippe Andriès, qui raconte « J'en ai pris plein la figure avec cette histoire. L'association du patrimoine local Lers Historique m'a écrit juste avant les vacances pour dénoncer un saccage. Bien sûr qu'on va réparer tout ça, mais franchement, entre Noël et Nouvel An, j'ai eu des urgences à traiter. 23 habitants se sont retrouvés sans chauffage. Il a fallu leur donner des radiateurs. Alors c'est vrai que la borne peinte en jaune, on s'est dit qu'elle pouvait attendre un petit peu, mais dès aujourd'hui, on va la nettoyer.
Bon, c'était pas la priorité. Comment est-ce qu'on préserve ces bornes frontières, Cécilia ?
Alors, certaines sont toujours dans l'espace public, déplacées parfois de quelques mètres, comme le sont les monuments aux morts, pour éviter des dégradations. Et puis, il y a celles qui ont été volées, comme à Nieppe, rue du Sac, en 1988. Alors, on a décidé de protéger la dernière qu'il nous restait au musée du château, raconte la directrice Nathalie Fache. Elle dit, ces pierres sont les cicatrices de notre territoire. Le public est toujours surpris d'apprendre que la frontière avec la Belgique a avancé ou reculé plusieurs fois au gré des conquêtes et des traités de partage. Notre stèle est magnifique. Elle est ornée d'un côté des trois fleurs de lys du royaume de France et puis de l'autre côté, on y voit l'aigle à deux têtes de la couronne impériale d'Autriche.
Il y a même un musée qui leur est dédié, le musée de la vie frontalière.
Oui, c'est dans le village de de God Warsveld. J'espère que je prononce bien. Je vais y reprendre. God Warsveld. Voilà, je vais le dire en phonétique. Ce petit musée accueille en fait le public, 1500 visiteurs par an, et nous replonge dans la France des années 50, au temps des fraudeurs et des contrebandiers. Le guide local Serge Sotz, qui est aussi premier adjoint, se passionne pour les histoires de douaniers. Nous avons retrouvé des chaises et des lits d'embuscade qu'ils emportaient sur leur dos pour guetter et mettre en fuite les intrus. On conserve notre borne frontière comme une relique. Elle est, paraît-il, posée au sol, à l'entrée du musée, comme une barrière invisible du temps passé.
Et je ne vous demande pas où se trouve ce musée de la vie frontalière. Non, merci Cécilia Arvelin. Mais vous le retrouvez à la page de 13-14 sur le site de Radio France, de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est le chanteur Gilbert Montagnier qui est aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Gilbert Montagnier qui, 20 ans après son dernier album studio, sortira d'ici le printemps un nouveau disque, L'amour dans les mains. Et c'est d'une chanson d'Édith Piaf qu'il a souhaité parler. Elle a beaucoup compté pour lui.
Piaf a été très importante parce que d'abord, il y avait une proximité dans le sens où on venait du même quartier, Ménilmontant, Belleville. Moi, je suis né là, rue des Pyrénées. Et j'ai vécu mes 20 premières années là-bas, vraiment. Et moi, quand je pense à Piaf, je pense aux petits appartements avec des petites fenêtres et des rideaux à petits trous, le fer à repasser qu'on utilisait sur le gaz et les ménagères qui chantaient les chansons de Piaf. Et j'étais déjà très connu dans le quartier parce que j'allais faire les courses seul quand j'avais 8-9 ans. Et à l'époque, dans le quartier, on disait « Oh, ben ouais, c'est le petit qui voit pas clair !» Alors j'étais déjà star dans le quartier.
Édith Piaf, on l'écoutait beaucoup chez vous ?
Oh oui, bien sûr, beaucoup. Et puis je savais aussi qu'elle avait été atteinte de cécité jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et qu'après, elle a retrouvé la vue. Donc c'était un petit point commun comme ça. Ah oui. Qu'est-ce que j'aurais aimé la rencontrer. Je suis sûr qu'on serait bien entendu. Je suis certain.
Des murs qui se lézardent, un escalier droit, une vieille mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi.
Cette chanson, Frédéric, s'appelle « De l'autre côté de la rue ». Elle est sortie en 1944.
La musique est de Marguerite Monod, les paroles sont d'André. Et ce qu'elles décrivent, ce qu'elles racontent, comme la voix d'Édith Piaf, réveille donc chez Gilbert Montagnier de très nombreux souvenirs d'enfance.
On n'avait rien, mais on n'enviait pas forcément les autres. Et c'était comme une espèce de fatalité dans un sens, mais dans l'autre sens, la porte du possible était ouverte. Et c'est ça ma grande chance, moi, dès que je suis né, j'ai toujours vu les portes du possible ouvertes. Et justement, cette chanson « De l'autre côté de la rue », ben c'est ça. C'est-à-dire que de l'autre côté de la rue, elle voit une fille, elle a tout ce qu'il faut, elle a les vêtements, les voitures, les machins, mais apparemment, elle n'a pas tout ce qu'il faut dans sa vie intime. Alors que elle, Edith, ce qu'elle chante elle pour elle, dans son rôle, elle est bien parce qu'elle a son mec qui l'aime et tout ça, et c'est beau. Je trouve que c'est une belle chanson. Puis Piaf, vous savez qu'elle avait ce côté mystique, elle avait ce côté voyance. Alors vous avez trouvé ça très bizarre, ce que je suis en train de penser maintenant, mais je ressens qu'elle sait ce que je suis en train de dire là. Il y a des choses que je ressens des fois.
Et là, vous ressentez ça précisément en ce moment ?
Oui, absolument. Elle nous écoute, elle regarde. Elle dit, bah, qu'est-ce qu'il dit le môme là ? Ben oui, elle dit, c'est ça.
L'autre côté de la rue.
Cette chanson, elle raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui envie une autre jeune femme qui habite de l'autre côté de la rue et puis qui finalement ne l'envie pas tellement parce qu'elle, elle a l'amour contrairement à cette voisine. Vous, est-ce qu'il vous est arrivé à cet âge-là de vous dire que peut-être de l'autre côté de la rue, le ciel était plus bleu ?
Eh ben non. C'est-à-dire que je savais que le ciel était plus bleu. Et en fait, mes parents, ils ne savaient pas au départ, évidemment, comment faire avec un enfant non-voyant, il n'y a pas le bouquin qui est livré avec. Ils l'ont fait à la Ménilmontant, c'est-à-dire mon père a dit, on va l'élever comme les autres, et puis voilà. Et puis, ils m'ont protégé, mais pas surprotégé.
Ils se sont bien débrouillés, vos parents ?
Oui. On m'a jamais dit que ce que je voulais faire était impossible. C'est ça, en fait.
Il y a une fille pauvre fille qui ne connaît rien de l'amour ni de ses joies éperdues.
Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours avec nous?
Je pense qu'elle s'est un petit peu reculée, comme ça, peut-être qu'elle n'a pas aimé le fait que moi j'ai dit qu'elle était là, mais c'est pas grave, Edith, hein. T'es la bienvenue. Ah, j'aurais bien aimé chanter avec toi. Mais peut-être que ça se fera dans la vie d'après. Ça serait bien.
De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde toujours d'un air triste et perdu.
Edith Piaf était-elle avec nous dans ce studio? En
elle
tout cas,
était.
Sa voix était là, de l'autre côté de la rue. C'était le choix de Gilbert Montagnier.
Gilbert Montagnier, dont le nouvel album sortira dans quelques semaines, L'amour dans les mains.
Merci Frédéric et à demain. À suivre, entre 14h et 15h, 14h50, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan. Mais dès 14h, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
De quoi parle-t-on avec vous aujourd'hui?
Eh bien de la robustesse, le meilleur rempart contre les fluctuations aléatoires du monde extérieur.
À tout de suite, cher Mathieu.